Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission numéro 4 d'Analyse F1. Et oui, déjà l'émission numéro 4, ce qui signifie que Analyse F1 en est déjà à 5 mois environ, il me semble, puisqu'il y avait eu une émission pilote, il me semble, et l'émission numéro 1 un mois après environ. Enfin bref, ça commence à dater, à durer, c'est bien cool. Et j'en suis très content. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Formule 1 version 2014. Parce que il y a eu quand même beaucoup de bruit. En début de saison, surtout, concernant les nouveautés. C'est vrai que, généralement, les gens ont peur de la nouveauté quand ça concerne quelque chose qu'ils chérissent, quelque chose qu'ils aiment. Et donc, là, ça a été exacerbé par l'ampleur médiatique de ce sport. Ça a été vraiment exagéré par les médias. Exagéré à travers des doutes, des inquiétudes de début de saison, des conclusions hâtives même, effectuées par des journalistes, hein, des conclusions hâtives sur la Formule 1 qui serait à peine plus rapide que le GP2, qui aurait une formule, une version 2014 qui ne fonctionne pas, que c'était n'importe quoi. Toutes les voitures vont tomber en panne, que ce serait scandaleux comme saison. Et finalement, qui d'entre nous, qui d'entre vous pourrait vraiment critiquer cette saison en prenant du recul, vraiment critiquer le spectacle qu'on a pu voir, à moins d'être vraiment ultra exigeant et de ce fait ne pas connaître, méconnaître l'histoire de ce sport, ce n'est pas possible. On a eu une saison palpitante, véritablement. Et le règlement 2014 n'a finalement pas pris le pas sur la course, et c'est le plus important, c'est ce que je dis souvent, quand la course reprend le dessus sur un élément, c'est le principal. Quand la course sera un élément laissé en retrait, là il y a des choses à redire, et d'ailleurs c'est souvent la source de mes critiques. Quand je parle par exemple, je sais pas, du DRS ou d'autres éléments critiquables, eh bien là, je mets en avant le fait que la course est mise en arrière, que le côté sportif est mis en arrière. Et c'est là qu'intervient ma critique et ma vision des choses. Et voilà, à travers cette émission numéro 4, donc, dans un premier temps, je parlerai longuement, je vais vraiment dégrossir tout ce qui concerne la F1 version 2014. Donc, un par un, je vais évoquer les divers éléments nouveaux, les gros éléments nouveaux, hein, surtout. Et afin d'analyser tout ça, voir ce qui a été bon et moins bon, parce que certes, en introduction, j'ai pu sembler dithyrambique et très positif sur cette F1 version 2014, mais il y a quand même des choses à nuancer et des choses à améliorer, ça c'est sûr. Et donc, on va parler de tout. On va parler de tout ça. Ensuite, après avoir vraiment passé le plus gros du truc, donc... Avoir vraiment envisagé un peu dans la globalité la Formule 1 version 2014. Eh bien, on fera une petite pause avec la pause musicale habituelle et avec le quiz habituel aussi, le quatrième quiz, en compagnie de Ghislain, qui est un nouveau participant, avant-dernier participant du quiz. Hein. En parlant du quiz, si vous désirez y participer, n'hésitez pas à ajouter le Skype Analyse F1. Tout attaché, mais attention, parce que je vous préviens directement, j'ai vu une personne ou deux qui m'ont déjà ajouté sur Skype, donc c'est possible que ce soit pour le quiz, donc ne soyez pas surpris si jamais votre ajout ne fonctionne pas, enfin je vous ajouterai et je compterai votre inscription pour, on va dire, les prochains quiz ou la prochaine formule que j'annoncerai, vraiment, là je la tease, je l'annonce en fin de quiz tout à l'heure. En fin de quiz, en discutant avec Ghislain, j'annonce la prochaine formule qui ne sera pas forcément un quiz, voilà. Donc restez à l'écoute. Et donc après le quiz, on terminera le sujet tout simplement sur l'efficacité de la Formule 1 version 2014. On terminera le sujet avec déjà des éléments plus léger, on va dire, à écouter, je pense. Et on conclura l'émission, voilà. Une émission qui devrait durer Comme d'habitude, 45 minutes, 1 heure, je pense. Et voilà. Et donc, on est parti pour parler de cette Formule 1 version 2014. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la F1 version 2014? Ça peut sembler une notion abstraite si vous êtes un peu néophyte ou si vous suivez la F1 juste comme ça, sans suivre vraiment les évolutions d'année en année. Eh bien, il y en a eu plusieurs. Il y a eu tout d'abord l'unité de puissance introduite cette année avec le V6 turbo hybride qui en est la plus grande partie, les systèmes de récupération d'énergie, le propulseur, etc. Il y a aussi la limite en essence, la limite de 100 kg d'essence par Grand Prix. Il y a eu l'aileron avant, les modifications réglementaires concernant l'aileron avant qui ont beaucoup joué cette saison. Et voilà, en gros, c'est ça. Et donc, de tout ça aussi, j'essaierai de vous montrer que l'évolution technologique n'a pas entravé tant que ça la performance. Enfin, ça, je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'unité de puissance qui, comme je l'ai dit, se compose du V6 turbo hybride. Donc, il y a eu Renault, Ferrari et Mercedes cette saison et on ajoutera Honda en 2015. Les systèmes de récupération d'énergie, le propulseur, etc. Bref, les différents éléments. Tout d'abord, le système de récupération d'énergie. Selon moi, c'est une grosse innovation cette saison, puisque ça fait vraiment partie de la technologie hybride de la Formule 1 de cette saison qu'on attendait. On le savait que les années précédentes, on avait un système de récupération d'énergie, c'était l'énergie cinétique, donc le KERS hein, qu'on connaissait, où un pilote activait ce KERS plusieurs fois dans le tour et en tout ça faisait 6 secondes et demie en gros de charge en plus. C'était un boost de 6 secondes et demie par tour. Et cette saison, il y a certes le système de récupération de l'énergie cinétique, mais il y a aussi le système de récupération de l'énergie calorifique par les gaz d'échappement. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Et bien tout simplement qu'au lieu que d'avoir une énergie délivrée pendant 6 secondes et demie, l'énergie est délivrée environ pendant 30 secondes. Ce qui fait que c'est pas le pilote qui va gérer ça, hein, je vous rassure, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à gérer au volant, d'autant plus cette saison, et d'autant plus dans certaines écuries en difficulté. Mais ça va être géré informatiquement, c'est-à-dire que les écuries vont décider d'une manière stratégique d'allouer la délivrance de l'énergie à tel et tel ou tel endroit d'un circuit, voilà, tout simplement. Sachant que, par exemple, en ce qui concerne Mercedes, évidemment, l'énergie délivrée était la même pour les deux aux mêmes endroits. C'était la même stratégie, ça devait être obligatoire. Mercedes voulait donner les mêmes chances aux deux pilotes et on s'y jouait sur ce système de récupération d'énergie, de délivrance d'énergie, pour qu'il n'y ait pas de bisbilles, d'ennui, tout simplement. Ensuite, je vais parler des soucis de fiabilité parce que en début de saison, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, il y en a eu pas mal, c'est vrai, il y en a eu pas mal. Moins que ce qui était attendu parce qu'on attendait vraiment une hécatombe au premier Grand Prix avec une grande surprise, enfin une surprise, on va dire, modérée. Il n'y a pas eu d'hécatombe attendue. Et donc, après, les soucis de fiabilité se sont peu à peu résorbés. Disons qu'on en a de moins en moins vu, on en a toujours vu régulièrement, mais bon, et ça fait partie de la Formule 1. Les soucis de fiabilité, historiquement, il y en a plus ou moins toujours eu, à part, c'est vrai, ces dernières années, après 2010, on en avait beaucoup moins, ça devenait l'exception. Ça devenait vraiment l'exception, les soucis de fiabilité. C'était vraiment exceptionnel. Mais voilà, on revient un peu dessus parce qu'évidemment, avec un changement si massif en réglementation, c'est normal qu'il y ait des soucis de fiabilité la première année. Et encore, il y a eu de l'amélioration course après course, hein, comme on a pu le voir. Mais c'est normal qu'il y ait quelques soucis après. Les soucis, tant qu'ils ne sont pas vraiment scandaleux, ça va. Mais il y en a quand même certains qui étaient limites. Par exemple, bon, ça représente une exception plutôt, autre qu'un exemple, c'est plus une exception qui confirme la règle. C'est l'abandon de Rosberg à Singapour avec son problème de volant là, c'était assez ridicule, c'était assez dommageable. Mais voilà, c'est le risque avec l'électronique, c'est que ça ne s'envisage, la monoplace ne s'envisage maintenant pas comme avant. Pour ça que les mécaniciens ont un boulot multiple en F1. Les mécaniciens de 2013 ne se sont pas tous fait virer pour les remplacer par des mécaniciens qui connaissent plus l'électronique. Non, ils se sont adaptés à leur travail et ils ont su évoluer. Et donc voilà, c'est plus une exception. Sinon, on n'a pas vu d'abandon. Enfin, les abandons dus à l'électronique, ben, c'est normal vu toute l'électronique embarquée saison. Mais voilà, on a vu des abandons, des soucis de fiabilité, mais rien de scandaleux. Voilà, donc il n'y a pas eu l'hécatombe attendue et la saison. La mauvaise saison qu'on attendait avec des soucis de fiabilité qui entraveraient les luttes devant. Ça a été assez équilibré chez Mercedes entre les deux pilotes. Ça a été équilibré ailleurs. Bref, pas une saison qui bouleverse les esprits en termes de fiabilité concernant l'unité de puissance. Sachant que oui, là je parlais de l'unité de puissance, donc l'abandon de Rosberg n'est pas trop lié, c'est plus lié à l'électronique, mais bon, comme tout est lié maintenant, même des freins sont liés au système de récupération d'énergie et tout ça, à l'électronique, donc c'est vrai que pas mal d'éléments sont liés sur une F1, donc c'est normal que des fois je parle de choses qui sont transversales. Ensuite, concernant l'unité de puissance, ah oui, alors là c'est un sujet que j'ai déjà évoqué, donc je vais pas m'étendre outre mesure, mais le bruit, alors bon. Évidemment, il n'y a plus la magie pour les spectateurs. La magie qu'ils pouvaient ressentir quand ils étaient dans les tribunes, bien sûr. Je parle vraiment des spectateurs des tribunes qui avaient le bruit de la F1 ancré en eux et qui se souvenaient de ça. Évidemment, les nouveaux spectateurs de la F1 n'auront pas ça. Mais l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas à mettre de protection auditive. Parce que c'est vrai que c'était très fort. Donc ça, c'est, on va dire, l'avantage au niveau santé. Plus besoin de protection native, mais en contrepartie, il n'y a plus cette magie du bruit. Mais sinon, voilà, sinon, c'est que de l'artifice, le bruit. Il ne faut pas en faire tout un fromage. Il y en a eu beaucoup qui se sont élevés sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui ont râlé. Bon, c'est les pages sportives, hein, comme je le dis souvent, sur les pages sportives. Ceux qui réagissent le plus, c'est ceux qui veulent râler, évidemment, on a plus le clavier facile quand on veut râler, quand on veut réagir à quelque chose. Mais souvent, voilà, c'est plus de la réaction que de la réflexion. Et malheureusement, leur voix que je pense pas majoritaire, je l'espère du moins, leur voix a été entendue du moins par les instances de la F1 qui ont eu l'immense bêtise de se tirer une balle dans le pied, tout simplement en leur donnant raison, en disant: ah bah oui, le bruit c'est pas assez fort, il faut faire quelque chose. Et du coup, on a vu des tentatives ridicules avec la trompette là, la trompette au bout de l'échappement, par exemple. On a vu des tentatives, mais vraiment ridicules. Et ça, c'est très mauvais pour l'image de la F1, parce que si la F1 elle-même admet certaines choses qui ne sont pas admissibles selon moi, ce n'est qu'un artifice, le bruit. Au contraire, la F1 devrait faire comme par exemple fait la Formule E. Alors la Formule E, imaginez s'ils disaient: ah bah c'est vrai, on n'a pas de bruit, il faut en rajouter. Non, pas du tout. La Formule E capitalise sur ses avantages plutôt, au lieu d'essayer de corriger ces éventuels défauts qui n'en sont pas vraiment en fait. Il faut assumer, il faut que la F1 assume ses choix, et elle ne l'a pas fait, et ça montre bien une difficulté en termes de communication. C'est très mauvais, c'est du suicide en termes de communication ce qu'a fait la F1 cette saison. Et même, et voilà, après, même les écuries en ont profité, du coup, ont emboîté le pas, comme Ferrari avec certains sondages litigieux. Vraiment, c'est des pseudo-sondages de réseaux sociaux qui ne répondent pas, on va dire, aux normes de sondages d'opinion avec un vrai panel de personnes. C'est plus des sondages biaisés avec l'intitulé de la question. Et ils ont profité de ça pour évidemment faire en sorte que les choses changent pour que Ferrari relève la tête. Bon, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est dommage d'avoir vu tout ça, en tout cas, cette saison. J'aurais aimé ne pas voir ça, parce que le bruit, bon. D'accord, pour les spectateurs qui sont sur un circuit, ok, je veux bien concevoir, mais sinon, je ne conçois pas. Après, ça reste qu'un artifice. Si tu viens voir de la Formule 1 pour du bruit, eh bien, va voir du Monster Truck, je ne sais pas, va voir d'autres catégories. C'est que tu n'as pas compris le sport. Le sport, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'était une partie du sport, mais une partie légère du sport, hein. Le sport est tellement dense. Voilà, donc ça c'était le bruit. Je vais pas m'énerver là-dessus non plus, même si ça m'énerve, hein, rien que d'en reparler. C'est vrai que qu'est-ce qu'on en a pu voir des bêtises là concernant ça. Enfin bref. Ensuite, concernant l'unité de puissance, il faut évidemment parler du gel progressif. J'en avais déjà parlé aussi avec le dégel partiel. J'avais fait deux podcasts où j'en parlais. Donc bon, le gel progressif s'avère être en fait une bonne idée pour la réduction des coûts, puisque cette saison, en 2014, hein, on n'est pas sans savoir que les coûts ont été énormes pour développer les unités de puissance, et donc ça n'allait pas dans le sens de la réduction des coûts. C'est une réduction des coûts qui est vraiment sur le long terme, quoi. Qui n'était pas vraiment pour 2014, hein. Pour les autres saisons, oui, ça va venir. Bon, c'est plutôt positif. Et en plus, le gel progressif permet la lutte entre les motoristes. Ça va permettre, durant l'intersaison hivernale, aux motoristes de rattraper Mercedes. Ça va permettre à Mercedes de peut-être progresser un petit peu. Mais on espère vraiment que Renault et Ferrari auront le savoir-faire pour revenir. Sinon, ce serait très mauvais pour l'image de l'un et de l'autre, ou de l'autre. Donc, à voir dès les premiers essais privés, et surtout dès le premier Grand Prix à Melbourne, ce que ça va donner. Voilà, donc je suis revenu un peu sur l'unité de puissance, hein, en vrac. Et maintenant, on va parler de l'essence un peu. Donc, l'essence, il y a eu beaucoup de spéculations en début de saison également, hein, comme pour l'unité de puissance, hein, comme pour tout. Parce qu'on se disait, ah oui, ça va être la course à l'économie. Dès les premières courses, on n'entendait que ça sur les antennes de télé ou partout. On entendait, c'est la course à l'économie, c'est scandaleux, c'est pas de la course, ils attaquent pas. Alors que, si on réfléchissait 2 secondes et qu'on regardait les données tout simplement, on pouvait se rendre compte que ça concernait pas toutes les écuries. Je vois Williams, en termes d'économie d'essence, a été très forte cette saison, a été peut-être la meilleure écurie. Mercedes également. Après, voilà, il y a certains carburants qui se sont révélés peut-être meilleurs que d'autres, hein. Peut-être Petronas a été efficace, d'autres aussi peut-être qui se sont améliorés au fil de la saison. Mais c'est bien aussi parce que ça pousse les différentes marques de carburant aussi à améliorer leurs composés. Et ça, c'est très positif pour la F1, certes, mais ensuite pour l'innovation technologique à venir dans les voitures de série. C'est toujours ça qu'il faut regarder aussi en Formule 1. Et d'ailleurs, voilà, avec la technologie hybride, on a vu que c'était plutôt efficace cette saison. Et du coup, ça va pouvoir servir aux voitures de série à améliorer leur technologie hybride. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour l'environnement. Et c'est plutôt un bon signe. Et bon, du côté de l'essence, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, en début de saison, certes, il y a eu des courses, plus ou moins l'économie, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait quelques écuries qui s'en sont très bien sorties dès le début, qui faisaient une partie économie d'essence et ensuite une partie attaque. Et on avait d'autres écuries qui avaient plus de mal à trouver les moments pour attaquer, qui faisaient beaucoup beaucoup d'économies d'essence et très peu d'attaques. Là, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure de la saison, on a vu que ça s'est arrangé. Ça s'est beaucoup arrangé, à l'exception près du Grand Prix de Sochi. Du Grand Prix de Russie qui consomme beaucoup en carburant, apparemment. Donc voilà, c'était quand même intéressant de voir l'évolution à ce niveau-là. Encore une fois, quand on est au début de la saison, au début d'une saison où il y a une évolution réglementaire et technologique majeure et technique majeure, on ne peut pas se permettre d'avancer des conclusions après les 2 premiers Grands Prix. C'est de la folie. C'est pas être spécialiste de faire ça. C'est vouloir faire le buzz en avançant des spéculations. Même pas des spéculations. Il y en a qui affirment. C'était vraiment sous forme affirmative, hein, certaines choses qu'on pouvait lire et entendre. C'était vraiment sous forme affirmative, comme si ce modèle de F1 était présenté depuis 3 ans, alors que c'était depuis même pas un mois. Donc faut arrêter un petit peu, faut attendre. Faut laisser le temps au temps, faut laisser sa chance, fallait laisser sa chance à cette F1, et on a bien vu en fin de saison, en prenant du recul, que ah oui, ben c'est pas si mal en fait, c'est pas si mal parce que tous les doutes ont été, la majeure partie des doutes ont été dissipés concernant l'unité de puissance et la fiabilité, oui, concernant l'essence et la consommation, oui aussi, on peut le dire en fin de saison, quelle écurie était réellement en difficulté avec la consommation d'essence? Pas beaucoup, hein. Très peu, très peu. Généralement, il y avait du lift and coast encore, c'est normal. C'est normal qu'il y avait du lift and coast. Parce qu'il n'y a que 100 kilos d'essence, il faut faire avec. Mais le lift and coast n'a pas empêché les pilotes d'attaquer. Au contraire, il y a eu pas mal d'attaques en fin de saison. Ça n'a pas empêché de voir des dépassements. Ça n'a pas empêché de voir des belles batailles et des vraies batailles, hein, pas des batailles factices qu'on pourrait dire dictées par la consommation d'essence. Hein. Certes, il y a eu une part de gestion d'essence, mais il y avait quand même une plus grosse part d'attaque en fin de saison qu'en début de saison. Hein. Beaucoup plus même. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, n'oublions pas que la gestion de l'essence, dans l'historique de la F1, ça fait partie de la F1. Dans les années 80, il y avait certaines saisons où c'était pire. C'était pire et il y avait des courses, mais c'était scandaleux. Ils finissaient à moins de 5 voitures. C'était vraiment fou. Et là, vous allez me dire, ah, mais si c'est pour revenir. Il y a certains qui vont dire, ah, mais si c'est pour revenir comme avant, c'est pas de l'innovation, j'appelle ça, c'est de la régression. Et oui, mais c'est les mêmes personnes qui vont me dire ça. C'est les mêmes personnes qui veulent un retour en arrière en disant, la F1, c'est mieux avant. Bon, faudrait savoir à un moment ce que l'on veut. Voilà, et même après, quand il y avait les ravitaillements en essence dans les années 90, 2000 et tout, même là, il y avait une gestion en essence pour effectuer un arrêt en moins, un arrêt en plus, pour faire quelques tours en plus rapides. Il y avait une gestion de l'essence là aussi. Donc là, ça se présente sous une autre forme qui fait peut-être peur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés cette saison. Donc ça fait peut-être peur aux passionnés de F1 qui a son petit train-train de F1 avec les V8 et tout, avec la réglementation. Et là, on change le truc, et forcément, ça fait un clash au début. Mais justement, il ne faut pas partir là-dedans, et il faut attendre de voir. Il faut attendre de voir ce que ça donne, et force est de constater que ça donne quelque chose de pas trop mauvais, même de bon. Et même, c'est bon aussi au niveau de l'innovation, puisque là, ils font 300 km, 300 km avec 100 kg d'essence, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ça, 300 km avec 100 kg d'essence. Donc, il y a réduction des coûts au niveau de l'essence, il y a moins d'essence, on va dire, de brûler, puisque. La technologie hybride permet aussi que l'électronique prenne le pas. Bref, c'est très bien cette technologie. Ça a permis de faire des courses comme avant et à une vitesse correcte, quoi. Et même plus que correcte, hein, comme je le dirais tout à l'heure. Voilà. Avant d'envisager l'aileron avant et la fin de l'émission, parce que là, ça s'éternise. C'est vrai que j'ai fait long sur les premiers points, mais il m'apparaissait important de détailler certaines choses. Mais voilà, il est temps quand même de faire une petite pause afin de digérer tout ça. Et on se retrouve après donc la pause musicale qui sera une composition d'Alexander Borodin, In the Steppes of Central Asia. Et après, il y aura le quiz avec Ghislain, quiz enregistré le 10 décembre 2014. À tout à l'heure pour continuer à parler de l'efficacité de la F1. Version 2014. Bonne écoute et bon quiz à tous. Thank you. Et nous voilà donc pour le quatrième quiz en compagnie de Ghislain. Rebonsoir donc, Ghislain.
Rebonsoir, oui, puisqu'on vient de discuter un peu ensemble. Donc rebonsoir et bonsoir à tous et à tous les auditeurs qui écoutent Analyse F1.
Eh bien, bienvenue à toi dans Analyse F1 et merci pour ta participation au quiz, ça fait plaisir.
Bah de rien, non, c'est à toi, non, c'est toi que je dois remercier quand même, pour le coup. Non,
d'accord.
Ça fait très plaisir.
Bah, je t'en prie. Et d'où nous viens-tu?
De Bretagne, je suis breton.
D'accord.
Je sais pas si t'en as eu déjà.
Ah si, si, il me semble, ouais. Ici j'ai eu Oasis, qui est d'ailleurs leader du quiz pour l'instant, qui donc est breton.
Bon, bah voilà, ça fait deux Bretons dans ton podcast, donc voilà, ouais, Breton d'à côté de Rennes, pas très loin de Rennes.
D'accord, très bien. Eh bien, la Bretagne fièrement représentée, puisque d'ailleurs Oasis avait obtenu 11 points lors du deuxième quiz.
Je vais avoir du mal à faire. Je vais essayer, mais là, ça va être dur quand même pour rivaliser. Il était fort.
Ouais, Loïc, deuxième, 8 points, qui était avec moi physiquement pour le quiz. Burt, 5 points. Et donc, tu es le quatrième participant. Et on verra bien quel nombre de points tu vas avoir tout à l'heure. Et avant ça, j'aimerais savoir, même si je le sais déjà un peu, comment as-tu connu Analyse F1 ? Est-ce que ça fait longtemps que tu écoutes le podcast ?
Donc non, ça fait pas très longtemps. Donc je t'ai envoyé un tweet en rapport. Donc ça faisait à partir de ce moment-là du coup que je t'ai écouté au final. Et non, surtout parce qu'on est plus ou moins proche, enfin plus ou moins proche, façon de parler, mais disons que voilà, entre PodCloud et puis bon, c'est toute une chaîne de connaissances, bon, qui fait que du coup j'injecte un peu de dons dans PodCloud, donc je finance un peu la plateforme comme d'autres le font également, et puis bah voilà, donc au fur et à mesure j'ai fini par chercher un truc de F1, j'ai fini par te trouver vraiment par hasard, puisque t'étais dans les premiers, je crois que t'étais dans le top 20, t'étais dans le 5e, une connerie comme ça. J'ai cliqué, je t'ai écouté, et puis bah voilà quoi. Je t'écoute depuis ce temps-là, donc depuis pas très longtemps malheureusement, mais bon, bah voilà quoi.
Bon, merci en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de découvrir peu à peu comment les auditeurs peuvent découvrir le podcast, c'est vrai que c'est très intéressant.
Ouais, bah par hasard.
D'accord. Alors, je vais te rappeler les règles du quiz, brièvement, donc elles, mm-hmm. n'ont pas changé. 15 questions, 1 minute 30 pour y répondre. Mm-hmm. Tu devras attendre la fin, que je pose entièrement la question avant de pouvoir répondre, et tu pourras passer les questions pour aller plus vite et éviter de perdre du temps en réflexion. Alors, concernant la difficulté des questions, c'est toujours la même chose. Je les ai élaborées, on va dire, de tête et aussi avec l'aide de un ou deux sites, un site en particulier. Et donc, les difficultés est, on va dire, équilibrées par rapport aux autres quiz. J'ai essayé de faire une majorité de questions dites faciles. Ensuite, quelques questions moyennes faciles, d'autres moyennes et des questions un peu plus dures avec des pièges. Mais bon, globalement, il y a de quoi avoir, on va dire, la moyenne, si on ne se laisse pas envahir, bien sûr, par le stress du quiz. Je pense, si tu as écouté les émissions, tu as pu noter que ça pouvait être palpable quand même.
Oui, surtout quand je crois que c'était le Québécois qui avait participé là. C'est dommage qu'il s'en mêle. Voilà, c'est ça. C'est dommage qu'il s'en mêle dans les pinceaux, parce que on sentait que voilà, il y avait un décalage en plus avec la distance, même si on utilise quand même un logiciel perfectionné. Mais voilà, du coup, c'est vrai que on sentait que c'était assez rapide. Bon, bah écoute, je suis prêt, hein, ma foi.
T'es prêt? Est-ce que tu veux un petit échauffement sur trois questions qui n'ont rien à voir avec les questions que j'ai préparées pour te sentir plus prêt, ou direct on rentre dans le dur?
Bon, allez, fais-moi trois questions, c'est pour le fun, c'est pour le sport, donc allez, vas-y, je t'en prie.
Ok, alors, top, qui est le frère de Ralf Schumacher?
Michael Schumacher.
Combien de titres a eu Michael Schumacher dans sa carrière?
7.
Qui est le dernier pilote français à avoir remporté un Grand Prix de F1?
Olivier Panis.
Voilà, t'as 3 sur 3. Voilà, bon. C'est le rythme.
Ok, bon, bah ça va. Okay. Ça laisse à peu près le temps.
Donc, on peut y aller. Es-tu prêt, Ghislain?
Je suis prêt, Julien. C'est à toi, vas-y.
Eh bien, c'est parti top. En 2015, les deux pilotes Ferrari cumulent combien de titres de champion du monde?
5.
Oui, vrai ou faux? Il y aura un Grand Prix sur un circuit ovale en 2015.
Faux.
Oui, Keke Rosberg a gagné son titre en quelle année?
1982.
Oui. Quel pilote allemand de F1 va participer aux 24 heures du Mans en 2015?
Je passe.
Carlos Sainz Jr. va faire ses débuts en F1. Dans quelle catégorie s'est illustré son père?
En rallye.
Oui. Hamilton a choisi de ne pas porter le numéro 1 en 2015 et de garder son propre numéro en 2015. Quel est son numéro?
Oh, je l'ai en tête. 44, je crois.
Oui.
Oh.
D'ailleurs, le numéro 44 a été porté par deux autres anciens champions du monde. Cites-en moins un.
je passe là.
Le vainqueur d'un Grand Prix remporte combien de points?
25.
Bien. Hamilton sort avec quelle célèbre chanteuse?
Nicole Scherzinger.
Oui. Qui était le sponsor qui a offert à McLaren ses couleurs mythiques rouge et blanche?
Marlboro.
Oui. Red Bull a fait ses débuts en F1 en quelle année?
Oh, 2005.
Oui. Quelle écurie, toute de jaune vêtue, a accueilli notamment Damon Hill, Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella?
Jordan.
Oui. Entre 2001 et 2006, deux manufacturiers pneumatiques étaient en concurrence. Lesquels?
Michelin et Bridgestone.
Oui. Et donc, je ne vois plus le timer. Eh ben, ça doit être fini, oui. Le
Ok.
timer a fini. Pourtant, t'as pas chômé hein, sur les
Ah,
questions.
ah t'as vu? J'ai rien bossé.
Ah oui, t'as vraiment pas chômé, donc je suis étonné que le timer soit même fini. Je vais te poser les deux autres questions juste pour le sport. Alors, quel commentateur français commence à être célèbre avec son Montez le son et rendez-vous au premier virage?
Julien Febraud, évidemment.
Voilà. Et ensuite, la dernière question, c'était donc la question analyse et fin. Alors, l'émission numéro 4, là, dans laquelle se trouve le quiz, elle concerne donc une sorte de bilan, on va dire, de la Formule 1 version 2014. Et l'émission numéro 5, par contre, le mois prochain, sera consacrée à quel thème?
Ah, j'ai entendu tout à l'heure en plus. J'ai fait la fin de l'émission. C'est sur les pilotes et les écuries.
Ah
C'est
voilà,
ça?
très bien, ouais.
Ah, je me disais bien que je l'avais en
Chapeau.
tête.
Chapeau, chapeau. Je vais compter les points, donc, et on va voir si tu as obtenu plus ou moins que Oasis, notamment. Que penses-tu du quiz, là, de ton quiz, de ta performance, de la pression, de tout ça?
Bah, écoute, on a le temps quand même de réfléchir aux questions. Ça vient quand même très vite. J'aime bien. J'aime bien. Alors, par contre, ça serait même meilleur avec d'autres personnes parce que je suis sûr que ça ferait. Mais bon, faut préparer les questions quand même derrière. Mais non, non, c'est vraiment bien ton quiz là. C'est fun.
D'accord, bah très bien, bah je suis content. Et donc, tu auras obtenu là, après premier décompte, tu as 11 points. Je vais recompter hein, pour voir s'il n'y a pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Et avec un potentiel vraiment de 13, parce que franchement, là, enfin, je vois pas sur quelle question tu as vraiment réfléchi, à part les questions que tu as passées, mais.
Ouais, bah oui, c'est les seules questions, puisque les autres me sont venus du au tac au tac, quoi. Donc, bon,
Ouais,
voilà.
après peut-être que c'est vrai qu'il y avait des questions qui avaient des intitulés assez longs, donc
Oui.
c'est vrai que.
Il y avait juste si j'ai buté à moitié sur la copine d'Hamilton, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse des masses, à vrai
Ah,
dire.
c'était la question people, on va dire. Je vais pas en poser 36, ça c'est sûr.
Non, ça c'est sûr. Mais non, 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 c'est vrai que. Puis ça fait du bien de te reparler comme ça. T'as posé une question là sur Jordan et puis sur Red Bull. Red Bull, pardon. Anciennement Jaguar. Donc c'est vrai que ça fait du bien de reparler de ces écuries-là. Comme ça, là, qui ont disparu aujourd'hui. Non, ça fait. Voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai connu la F1 aussi. Donc non, c'est vachement bien ton quiz là. Franchement.
D'accord. Ah
Voilà.
ben c'est cool. Donc 11 points, donc tu
Ok.
égales Oasis. Mais avant de reparler un petit peu de tout ça, on va revoir les questions aussi où tu n'as pu apporter de réponse ou tu as passé. Alors, la première d'entre elles, c'était quel pilote allemand de F1 va participer aux 24 heures du Mans en 2015? Eh bien, c'est Nico Hülkenberg. Hein.
Ah oui, d'accord. J'avais pas, en fait, j'avais juste tilté sur 24 heures du mois et 2015. J'avais pas réfléchi sur le début de la question. Du coup, j'allais dire Weber, mais non, Weber, il est là depuis l'année dernière, donc c'était pas lui. Voilà, je suis désolé.
Ouais. Ensuite, il y avait la question hyper difficile. Là, franchement, tu aurais répondu, je me serais dit, bon, il va répondre à tout le reste. Alors, le numéro 44 a été porté par deux autres anciens champions du monde, qui, en effet, c'est des très anciens champions du monde. Tout d'abord, il y avait Giuseppe Farina, qui a porté le numéro 44 pendant un Grand Prix en 1954. Et Jack Brabham,
Ah bah oui, d'accord.
récemment décédé,
Décédé,
malheureusement.
oui.
Qui a porté ce numéro pendant un Grand Prix également en 1970. Donc c'était vraiment les questions de l'impossible, la
Oui.
question de l'impossible du quiz.
Question de passionné à fond de chez fond, là. Bah, pour le coup, incapable de
Là oui.
trouver.
Même moi, si j'avais pas préparé la question, j'aurais jamais su, hein, je
Voilà.
l'avoue.
L'aveu est fait.
Voilà, quand même. Faut pas déconner.
On est d'accord.
Voilà. Ben bravo, hein. 11 points avec Oasis,
Merci.
donc égalité à l'aube de la fin, on va dire, de ces 5 mois de quiz. Je pense que si jamais vous êtes tous les deux égalité et que le cinquième participant n'arrive pas à dépasser ces 5 points, si Oasis et toi êtes d'accord, j'aimerais bien organiser une sorte de duel final.
Ah bah avec plaisir, avec
Durant une
plaisir.
émission, je fais l'appel à Oasis, hein, je ferai l'appel sur Twitter également si il ne peut pas écouter l'émission à temps, mais c'est vrai que ça m'inspire bien.
Avec grand plaisir. Alors là, c'est vraiment quand tu veux pour le coup. Je suis vraiment content de participer à ton quiz. C'est vraiment très bien.
Très bien, ben bravo à toi en tout cas
Merci.
pour la performance. Ah oui, avant de finir ce quiz et de continuer le rythme de l'émission, je voulais te demander, parce qu'il me semble que tu as un podcast, j'ai cru voir, sur Twitter. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais, bien sûr. Donc voilà, je fais un podcast sur la musique électronique avec mon fidèle compagnon entre guillemets, puisqu'on a fait du podcast, on a fait d'autres podcasts avant celui-ci qui parlait d'informatique notamment. Donc c'est avec Alain Devarieux. Donc voilà, il m'accompagne et on fait tous les deux donc Les Abyssales, donc une émission de 1 heure ou de 2 heures. D'ailleurs, on vient de finir l'émission de 2 heures là. On vient de finir l'enregistrer la semaine dernière, donc elle va être disponible sans doute cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis bah voilà, on s'amuse à passer des morceaux dits de qualité, hein, pas les mêmes morceaux que l'on peut retrouver sur les bandes FM ou à la télévision notamment, mais vraiment des morceaux que l'on recherche, des artistes que l'on cherche à mettre en avant, qu'ils soient français ou internationaux, signés en général sur des labels très confidentiels. Voilà, c'est un rythme mensuel, et donc ça fait déjà 10 numéros. Vous pouvez retrouver, donc c'est lesabyssales.fr, il y a un site internet, vous pouvez télécharger les émissions gratuitement, et voilà, et puis apprécier notre petit travail. Donc on est super content de faire ça. Voilà.
Très bien, eh bien l'appel est lancé. Si vous voulez découvrir la musique électronique ou si vous êtes déjà fan de DM, eh ben allez-y, je pense que ça vaut le coup d'œil parce que découvrir des artistes de qualité un peu rares et qui sortent des sentiers battus, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est vrai que je veux mettre aussi en avant ça, hein, dans
Oui,
les
j'ai
pauses
entendu ça.
musicales d'Analyse F1.
Oui, j'ai entendu ça, effectivement. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué à faire. Quand on baigne dedans, moi personnellement, je baigne dedans depuis pas mal d'années, donc ça va. C'est quelque chose qui est devenu presque un réflexe d'aller chercher des morceaux. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie aussi d'amener la personne qui entend la musique électronique je vais donner un exemple complètement idiot, mais par David Guetta, par exemple, qui ne fait pas de musique électronique, bien entendu, mais de la pop.
Oui.
Voilà, donc je referme la parenthèse, sinon je vais m'attirer les foudres, bref. Mais en fait, voilà, c'est simplement d'amener même la personne qui n'en écoute pas forcément, hein, et de l'amener via des morceaux, via toutes les couleurs de la musique électronique, hein. Ça peut être de la techno, de la house, ça peut être aussi de l'ambient, de l'électronica, de la drum and bass. On a même passé du hardcore. on se refuse rien du tout et on fait ça dans la bonne humeur. C'est le plus important. On a parfois des thèmes où on va chercher des morceaux plus particuliers. Donc voilà, c'est on contraint les gens à ne, on contraint personne, on ne se met pas de cage et on ne vampirise pas la personne qui vient juste d'écouter encore une fois Guetta, mais j'ai une dent contre lui, décidément. Avant.
C'est compréhensible, je te comprends.
Voilà, donc voilà, tout simplement, c'est juste ça. Donc moi, je vous appelle simplement à venir écouter. Et vous écoutez aussi Analyse F1 avant.
Ah, bah, c'est gentil, c'est gentil.
Pas de problème.
Eh bien, merci à toi, Ghislain. Avant, ah oui, avant, encore une fois, de clôturer cet espace quiz, c'est vrai que j'avais dit que j'annoncerais, on va dire, quelque chose pour dans 2 mois ou peut-être 3 mois, parce que si jamais il y a une grande finale entre vous deux, ça se passera peut-être du coup dans 2 mois, entre Oasis et toi, je voulais dire. Mais sinon, ensuite, je compte inaugurer à la place de l'espace quiz. Un espace qui s'appellera Mon Souvenir F1. Alors, qu'est-ce que c'est Mon Souvenir F1 ou qu'est-ce que ça va être, du moins? Eh bien, un auditeur, vous peut-être, qui écoute Analyse F1 en ce moment, peut-être toi, peut-être Ghislain d'ailleurs, hein, si tu as eu envie de reparticiper, eh bien, vous pourrez partager un souvenir de Grand Prix qui vous tient à cœur pour toutes les raisons du monde. Ça peut être un souvenir joyeux, triste, un souvenir de course, de bataille, de duel, de tout et n'importe quoi, de naissance de votre pilote favori, même un pilote qu'on ne connaît pas trop. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi soit préparer votre texte à l'avance, soit venir au feeling. Vous faites comme vous voulez. Ça peut être humoristique ce que vous dites. Vous avez une totale liberté. On discutera de ce souvenir et on aura la discussion habituelle ensuite que l'on a d'habitude après un quiz. Mais voilà, ça fera l'occasion de revenir sur un souvenir de F1, de replacer les choses dans l'histoire. Parce que la F1, c'est aussi l'histoire. L'histoire, ça, chaque saison écrit une nouvelle histoire et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime, et du coup je veux mettre ça en avant à travers cette nouvelle rubrique.
Ben, ça sera avec grand plaisir si tu veux m'entendre une nouvelle fois, eh ben, je le ferai sans problème. Parce que là, j'en ai deux, là, tu vois, rien que tu en parlais, j'en ai déjà deux là, qui me viennent en tête. Voilà, tiens, j'ai le duel Alonso-Schumacher à Imola, par exemple. Tiens, allez.
Ah, très bien,
Voilà, allez.
très bon cru, très bon cru,
Je t'en donne un
j'approuve.
comme ça, là.
Ah, ça me remonte déjà les souvenirs, là, tu vois.
Voilà.
Eh bien, pourquoi pas. Après, je ne te cache pas que la priorité, évidemment, est faite aux auditeurs qui n'ont encore jamais participé à Analyse F1. Mais si jamais je ne trouve personne qui n'a jamais participé, évidemment que tu pourras avec plaisir venir parler de ce duel ou d'un autre.
Y a pas de
Voilà.
problème, y a pas de souci.
Eh bien, je crois que ce sera tout sur les annonces. Ah oui, pour mon souvenir F1, ce sera peut-être pas. Sur 5 mois, peut-être que ça sera en alternance avec une autre forme de quiz ou avec autre chose, je ne sais pas encore, je me réserve une liberté, parce que je peux avoir cette liberté sur PodCloud, sur PodChose, en podcast audio. Donc ben, je vais me l'accorder.
Ah bah c'est très bien, vas-y.
Eh bien, merci à toi, Gisela, encore une fois,
De
c'était
rien.
vraiment un plaisir, vraiment ce quiz avec toi, et bravo encore.
Merci.
Et
Merci à toi.
Eh bien, je t'en prie. Et donc, on se donne rendez-vous pour le dernier quiz, pour le suspense, pour voir si Oasis et Ghislain vont pouvoir être détrônés. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et sinon, ne coupez pas votre. J'allais dire, ne coupez pas votre radio, ne coupez pas en tout cas votre moniteur audio qui vous permet d'écouter Analyse F1, puisque l'émission n'est pas terminée à propos de ce bilan de la Formule 1 version 2014. A tout de suite. A plus tard, Ghislain.
Salut.
Nous nous retrouvons donc après ce quiz pour continuer l'émission numéro 4 à propos de l'efficacité de la Formule 1 version 2014. On va parler de l'aileron avant un peu, parce que quand même, l'aileron avant, ça a été un autre grand pan de la réglementation 2014. D'une part, parce que il y a eu moins d'appui alloué, c'était une volonté de la FIA, et d'un autre côté, il y a eu une volonté de sécurité. On va voir si cette volonté a été, on va dire, réalisée. Tout d'abord, je vais parler en préambule de l'esthétique discutable. Là encore, c'est comme pour le bruit des moteurs, j'y mets dans le même sac. L'esthétique et le bruit, j'y mets dans le même sac. L'esthétique est certes discutable des ailerons avant, surtout le premier aileron avant de Caterham, notamment. Mais bon, après, ce sera l'appréciation de chacun. Perso, au fur et à mesure de la saison, je me suis fait à plus ou moins tous les ailerons avant. Ça m'a moins choqué. Bon, c'était peut-être moins harmonieux que les saisons précédentes sur certaines monoplaces. Mais voilà, on a vu différentes solutions engagées par les écuries, donc différents ailerons avant, pourquoi pas. Mais bon, l'esthétique est certes discutable, mais ça, c'est une discussion superficielle. N'entrons pas là-dedans. N'entrons pas là-dedans. C'est discuter à propos de quoi? À propos de rien, en fait. Discuter à propos de l'esthétique, c'est comme discuter à propos du bruit, hein. J'en ai pas mal parlé parce que, évidemment, c'est relayé par les médias, on entend beaucoup parler de ça. Il faut que je réagisse dessus parce que j'ai mon mot à dire. Et tant que j'ai mon mot à dire, en fait, Analyse F1 existera. Ça, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Tant que j'aurai mon mot à dire contre certaines choses, tant que je pourrai apporter un propos, mon propos, tout simplement, eh bien, je continuerai. Eh bien, là, c'est pareil avec l'aileron avant. Certes, on peut critiquer l'esthétique, mais bon, c'est tout, ça va pas plus loin. C'est pas pour ça qu'on va dire que la Formule 1 version 2014 est ratée. Après, bon, c'est améliorable. Je pense que la FIA en a conscience et veut changer certaines choses pour 2015 et va changer certaines choses pour 2015. Mais voilà, bon, c'est à titre d'anecdote, tout simplement. Alors, tout d'abord, comme je le disais, l'aileron avant, tel que la réglementation 2014 le prévoit, présente moins d'appui. Alors, il y a du pour et du contre dans ce choix. Il y a du pour tout d'abord, parce que selon moi, ça permet un pilotage plus technique. C'est-à-dire qu'il y a certains virages qui se prenaient peut-être à fond avant et où il faut être plus habile avec la pédale de l'accélérateur d'une part et le volant d'autre part. Donc ça, je trouve que c'est positif. Ça se voyait d'ailleurs pas mal en début de saison, les voitures patinaient plus. Après, c'est vrai que les écuries ont trouvé les solutions techniques pour que les monoplaces soient un peu plus stables, c'est vrai. Et ça, c'est pas plus mal. Mais selon moi, c'est pas un mal qu'il y ait moins d'appui. C'était un défi à relever à la fois pour les pilotes et les ingénieurs. Et je pense que les deux ont réussi à faire le pas, sauf certains pilotes à qui ça a moins plu, mais il n'y a pas vraiment que ce point-là qui leur a pas plu. Il y a aussi peut-être le système de freinage, c'est vrai. Et là, je pense à Vettel et Raikkonen notamment qui ne sont pas sortis, surtout Raikkonen. Vettel s'était mieux en deuxième partie de saison, mais Raikkonen en toute la saison c'était le calvaire avec sa Ferrari. Donc peut-être le renouveau l'année prochaine. Bref, on n'est pas là pour parler complètement des pilotes dans le détail. J'y reviendrai, je pense, le mois prochain dans l'émission numéro 5. Et donc voilà, moins d'appui, il y a du pour, du contre. Le contre, c'est que il y avait certains pilotes qui s'éclataient beaucoup à prendre certains virages, certaines courbes à fond. Et maintenant qu'ils ne le peuvent plus. Et du coup, ils ont un peu râlé. Vettel en premier, c'est vrai. Parce qu'il disait, c'était quand même mieux l'année dernière. Ça a été relayé aussi par d'autres pilotes qui ont eu ces déclarations, qui disaient que les années précédentes, vraiment, avec beaucoup, il y avait beaucoup d'appui et beaucoup de rapidité. On pouvait prendre les virages à fond. C'était vraiment le fun. C'est le pied de pouvoir prendre les virages le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est leur avis. C'est leur avis, c'est-à-dire qu'ils s'éclatent moins, ils ont moins de sensations peut-être au volant. Ils ont moins de sensations. C'est le bon mot. Donc ça c'est plutôt négatif. Mais ensuite, voilà, il y a certains pilotes aussi qui disaient l'année dernière que maintenant, prendre tous les virages à fond, c'était un peu ennuyeux, ça ne demandait aucun défi avec la technologie. Là, cette saison, ça repropose un défi. Donc il y a du pour et du contre à tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de réglementation parfaite et que là c'est un choix et qu'il faut s'adapter à ce choix et que les pilotes ont fait avec tout simplement. Ils ne sont pas allés jusqu'à critiquer outre mesure, au contraire, ils se sont adaptés et ont fait du bon boulot. Donc tant mieux. Et puis voilà, ce choix de procurer moins d'appui au véhicule, ça a provoqué des solutions différentes de la part des écuries en ce qui concerne l'aileron avant. Des solutions différentes, on le voit, on l'a vu en détail, on peut le voir en détail quand sur comment dire, les images zoomées, les analyses d'aileron avant des différents journalistes. Et c'est très intéressant de voir comment les écuries ont su trouver des solutions différentes pour le même objectif, c'est-à-dire permettre une meilleure circulation du flux d'air afin de perdre le moins d'appui possible, le moins d'appui possible, tout simplement. C'est sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est ce qu'a fait Red Bull à la dernière course de tricher. Et ça, c'est vraiment moyen avec le. Je crois que c'était une ailette flexible ou je sais plus quoi sur l'aileron avant. Mais c'était pas très bien. D'ailleurs, ils se sont fait disqualifier de la des qualifications. Donc ça, c'est moins bien. Mais bon, sinon, ça a donné lieu à des solutions différentes. Et j'accueille ça parce que c'est bien de voir des F1 au look différent. Même si, bon, ça n'engage que ceux qui ont cette opinion. Même si certains pensent que c'est moche, les F1 sont moches. Voilà, on voit des F1 au look différent. Elles s'identifient bien. On identifie bien la Mercedes, on identifie bien la McLaren, on identifie bien tout. Donc c'est intéressant. Ensuite, concernant la sécurité. Selon moi, c'est l'échec. C'est l'échec au niveau de l'aileron avant. Parce que dès le début de saison, même un peu avant le début de saison, il y avait des ingénieurs qui avaient dit, je crois dont Adrian Newey d'ailleurs, hein, qui avait dit que il y avait des risques avec cet aileron avant nouveau, que ça fasse l'effet inverse de l'aileron avant d'avant. Parce qu'en fait, l'aileron avant des années précédentes présentait un souci. Et le souci était que la voiture qui en percute une autre peut décoller. Alors que maintenant, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que l'aileron avant de 2014, qui donc a été fait pour pallier au problème de l'aileron avant précédent, eh bien, présente le risque que la voiture qui se trouve devant se retrouve embarquée par un effet de levier. Embarqué par un effet de levier tout simplement, et donc que la voiture devant se retrouve sur la voiture derrière, tout simplement, que l'arrière soit soulevé, l'arrière de la voiture devant soit soulevé, tout simplement. Et donc, ben c'est problématique, c'est vrai que c'est problématique, et je ne sais pas si de ce côté-là, la FIA a fait quelque chose dans la réglementation 2015. Je ne sais pas, je sais qu'il n'y a que des. La réglementation prévoit, il me semble, qu'il n'y aura que des nez plongeants. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne me suis pas penché sur le sujet, je vous avouerai bien. Mais à voir si ça pallie ce problème. Affaire à suivre et je vous tiendrai au courant, ne vous en faites pas. Bon, et après avoir vu tous ces grands pans, là, l'unité de puissance, l'essence et l'aileron avant, il y en a eu d'autres, hein, mais vraiment, je fais le principal. Eh bien, il s'agit de voir si cette évolution technologique a donné lieu à un gain de performance ou à une perte de performance. Parce que le but en Formule 1, c'est, à travers l'innovation, de garder la performance ou de trouver des meilleures performances. Eh bien, cette saison, on ne peut pas trop critiquer ce qui s'est passé. Là encore, en début de saison, on a tout entendu. Les monoplaces sont à peine plus rapides que les GP2. C'est scandaleux, ce n'est pas le sommet du sport automobile. En plus, il y a la course et l'économie. Bref, tout ça et le bruit. Enfin, voilà. Il y avait des articles qui mêlaient tout ça. Donc, autant dire, enfin, vous devez vous en douter, ça m'a vraiment énervé de lire tout ça et d'entendre tout ça. Et comme je le dis, il faut attendre. Quand on a une révolution technologique telle, on ne se rend pas compte, hein, c'est quand même énorme de. Le système des unités de puissance et puis toute la nouvelle réglementation, adapter ça sur les monoplaces, avoir qu'une trêve hivernale pour faire ça. Enfin, ils ont préparé les unités de puissance depuis des années. Mais voilà, ça demande quand même du temps avant que ce soit efficace en piste. Parce que il y a les tests aux essais privés, et puis voilà, les premières courses, les vraies conditions course, et puis après, il faut attendre avant que ça se développe bien et que ça s'installe. Et je pense qu'attendre une bonne partie de la saison, ce n'est pas trop demandé, ce n'est pas scandaleux. Si encore, là, à la fin de la saison, il n'y avait pas d'amélioration, je le dirais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai attendu la fin de la saison avant de faire cette émission. Avant, j'étais en. format vidéo, on va dire. Et je l'ai pas fait, j'ai pas parlé de la F1 version 2014, j'ai pas fait de bilan ni rien en début de saison. Au contraire, je me suis dit, je vais attendre la fin de saison, je vais donner la chance à cette F1. Le mieux, c'est d'attendre la fin de saison pour voir l'évolution, parce que je suis sûr qu'à travers les différents essais privés, les différents moments clés de la saison, comme Barcelone, comme Silverstone, comme d'autres, je suis sûr qu'il y aura des améliorations apportées et qu'on verra du mieux. Eh ben, j'ai eu raison, voilà, j'ai eu raison, et tous ceux qui ont voulu, on va dire, attirer la passion, on va dire, débordante de certains, et qui ont réussi en début de saison, hein, ça leur a fait du clic et de l'audience, eh bien, voilà, se sont finalement trompés quand on revient sur les choses. Et pareil pour la performance, ils se sont trompés. Certes, en début de saison, il y avait un déficit de 3 à 5 secondes environ. J'ai visé large, de 3 à 5 secondes environ par tour, et que ce soit en tour qualif ou en tour course, il y avait ça, entre 3 et 5 secondes sur les premiers Grands Prix de la saison. En fin de saison, on en est à 1 seconde de différence, voire 2 maxi. 2 maxi, que ce soit en qualification ou en course. C'est rien, c'est peanuts. Maintenant, certes, la F1 2014 est moins rapide que 2013, mais ça se joue vraiment à rien. Et puis en plus, la vitesse de pointe est plus élevée cette saison. On a vu des vitesses de pointe hallucinantes à plus de 340, 350 à Monza. C'était fou. Alors certes, il y a moins d'appui, ce qui fait que du coup, la monoplace de 2013 est plus rapide qu'en 2014. Mais voilà, au fur et à mesure de la saison, ça s'est globalement, ça s'est petit à petit rapproché. C'est ça que j'observe, c'est l'évolution de cette F1 version 2014 qui, du premier Grand Prix au dernier Grand Prix, a su s'améliorer. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'un Grand Prix, par exemple, sur un circuit aussi long qu'Abu Dhabi, qui fait 1 minute 40 et quelques, eh bien, il n'y a qu'une à 2 secondes de différence avec l'année dernière. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Alors que. En Espagne, à Barcelone, pour citer des exemples précis, il y avait 5 secondes de différence en qualif, hein, il me semble, et en course à peu près pareil, en termes de meilleur temps, de meilleur tour en course. Donc voilà, tout est dit. Je pense que la F1 2014 a fait ses preuves à travers l'amélioration tout au long de la saison, que ce soit sur tous les points, tout simplement, et montre que, voilà, ça n'a rien changé au sport en lui-même. Ça n'a rien changé au sport en lui-même. Ça ne l'a pas rendu moins fort. Au contraire, ça le rend plus fort, selon moi, de pouvoir s'élever de tout ça, de pouvoir dompter le règlement pour avoir des performances aussi fortes. C'est fort. Et le spectacle aussi. Le spectacle est toujours au rendez-vous. La course est restée toujours supérieure au reste. La réglementation est là, mais le sport reste là. C'est toujours de la F1, on a toujours vu des beaux dépassements. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Hein. Les dépassements, par exemple, de Daniel Ricciardo, parfois de Jean-Éric Vergne et d'autres pilotes, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, ils étaient là, ces dépassements. Et je ne parle pas que des dépassements DRS. Hein. Il y a eu des dépassements, c'était des dépassements forts, hein, avec une monoplace avec moins d'appui. Certains dépassements effectués à l'extérieur de certains virages, c'est quand même très très fort. Et on voit toujours des beaux dépassements, il y a de la qualité de course. Et il y a en plus, on a vu un duel au sommet tel qu'on en voit très rarement. Donc, que demande le peuple? Et là, c'est vraiment vrai. L'expression veut tout dire. Que demande le peuple? Et si le peuple en demande plus, eh bien, je l'invite à aller voir d'autres sports, tout simplement. C'est que la Formule 1 ne leur convient pas, qu'il faut aller voir d'autres sports. Parce que quand on connaît vraiment le sport, quand on réfléchit 2 secondes dessus. Eh bien, on se rend compte de ce qui se passe et on n'essaye pas de comment dire, de réagir à tort et à travers sur des détails. Hein. Le bruit du moteur, les courses à l'économie. Ouais, les courses à l'économie, alors ça, les spécialistes m'ont bien énervé parce qu'il y avait beaucoup de fausses analyses de certaines courses au niveau de l'économie d'essence. Et c'était assez saoulant. Et la vitesse en course également, hein. Il faut remettre les choses dans le contexte et attendre. Attendre la fin de saison. C'est ce que personnellement j'ai fait. Et je pense avoir bien fait. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs sur analysef1.podcloud.fr. Vous avez désormais la possibilité de laisser des commentaires. Donc, si jamais vous écoutez l'émission par ce biais-là, eh bien, ça peut vous arranger, ça vous évite de vous connecter à un réseau social, et puis en plus, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Vous avez juste à laisser un commentaire, vous pouvez le faire de façon totalement anonyme, vous pouvez le faire comme vous voulez, n'hésitez pas. Et ensuite, en plus, je peux éventuellement vous répondre. Voilà. Donc, c'était plutôt pas mal. Ce qui était moins bien, voilà. Je vais revenir dessus, c'est la communication des instances de la F1 qui a beaucoup voulu cette saison faire des tentatives d'amélioration du spectacle, comme je l'ai dit par exemple avec le bruit, mais il y avait aussi, je crois, une histoire d'étincelle ou n'importe quoi, des tentatives ridicules. C'était très mauvais et ça a nui au sport par contre, et ça a nui à la F1 version 2014, parce que la Formule 1 version 2014, elle peut avoir une très très bonne image si la FIA et les instances de la F1 y mettent du leur, alors que là ça a été le contraire, ils ont approuvé les critiques qui n'étaient pas énormément fondées, hein, il faut bien le dire. Et ça a desservi le sport et ça a peut-être desservi aussi au niveau des ventes des tickets. Alors que si la F1 savait se vendre un peu plus, ça aurait été bien. Ils ont des leçons à recevoir de pas mal d'autres disciplines à ce niveau-là, je pense, au niveau de la communication et de comment vendre son sport. Ça, c'est clair. C'est une communication qui doit être revue, je pense. Et j'espère que les choses seront faites dans le bon sens dans les saisons à venir et dans les années à venir. Voilà, donc en conclusion de cette émission, tout simplement, quand on a une révolution technologique, une révolution réglementaire telle que celle-ci, il faut être patient, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il faut vraiment attendre. Je sais bien qu'on est dans la société du tout tout de suite. Personne ne souhaite attendre, tout le monde veut tout tout de suite. Mais dans certains cas, dans beaucoup de cas, même dans la vie en général, on ne peut pas avoir tout tout de suite. Il faut savoir prendre son mal en patience. Et c'est pareil pour l'analyse sportive. C'est comme en football en fait. J'aime bien faire cette analogie avec le football. Alors on est en première journée, en août. Première journée en août, admettons, du championnat de France de Ligue 1, et il y a eu une préparation qui vient juste de se terminer, et encore, enfin, préparation compliquée, les recrues viennent juste d'arriver, et t'as le premier match, par exemple, allez, on va prendre le PSG, et qui perd le premier match 2-0 contre, je sais pas, Montpellier, par exemple, ou n'importe quelle autre équipe moyenne de Ligue 1. Et là, est-ce qu'on aurait des. C'est là aussi, il ne faut pas avoir de conclusion hâtive dans ce cas-là. Une saison de Ligue 1, c'est sur 39 journées. Une saison de Formule 1, c'était sur 19 courses, je crois, cette saison. Il faut vraiment pas s'enflammer dès le début. Il faut vraiment avoir une analyse posée. Quand on veut analyser une course ou un match, il faut vraiment pouvoir prendre du recul, se dire que c'était qu'un match et montrer de la mesure. Mais ça, on l'a plus, ça. C'est vrai qu'on l'a de moins en moins, la mesure dans l'analyse sportive. Et c'est bien dommage. Et tant qu'il en manquera, en tout cas, je serai là pour en apporter. Faites-moi confiance. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce podcast n'était pas trop long, était bien écoutable et pas trop lourd. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de l'actualité de la Formule 1. Tous ensemble, d'ici là, vous le savez, vivons notre passion. À la semaine prochaine.